votre Minitel, il y a forcément le service qui peut vous rendre service.
J'appuie sur envoi. Voilà, pour s'arrêter déjeuner, nous avons le choix entre une auberge, un restaurant 3 étoiles et un relais gastronomique.
Ce n'est pas la peine que je fasse des sandwichs.
Pour l'annuaire des services Minitel, tapez 3615 MGS.
Le Minitel avant Internet, cinquième et dernier épisode de notre semaine spéciale consacrée à l'archéologie des médias. Depuis lundi, nous fouillons ces mondes lointains et oubliés, ces mondes d'avant la presse, d'avant l'image et d'avant le son, ces messagers transportant l'information à cheval ou à pied, ces instruments magiques projetant à l'écran nos peurs et nos fantasmes, ces premières ondes merveilleuses, ces actualités cinématographiques déjà spectaculaires et racoleuses. Tous ces procédés qui précédèrent les journaux, le cinéma, la radio, la télévision et bien sûr l'Internet qui vient clore cette série. Ce matin, naissance de la connexion.
L'instant M. Sonia de Villers sur France Inter.
La télématique, c'est l'histoire d'un mariage entre l'ordinateur et les télécommunications. C'est-à-dire la possibilité de consulter à distance des données qu'autrefois on n'avait pas, de profiter de capacités de traitement et de puissance qu'autrefois on ne pouvait qu'espérer. C'est donc en fait l'avènement de deux techniques au comble de la réussite.
La réussite. Avant toute chose, j'aimerais remercier Anne-Cécile Perrin qui a mis en onde ce hors-série et Marion Philippe qui l'a dûment documenté. Un boulot d'orfèvre que vous pouvez réécouter à loisir sur le site de France Inter si vous avez manqué un des cinq épisodes, sur son appli ou sur l'appli Radio France. Bonjour Aurélien Bélanger.
Bonjour.
Un écrivain pour finir cette semaine, votre roman, lui aussi dûment documenté, Théorie de l'information, a été un franc succès en librairie. Il se trouve aujourd'hui en poche, en collection Folio. Alors, j'aimerais que vous nous replongiez, puisqu'on vient d'entendre la voix d'Alain Minc, au milieu des années 70. À cette époque-là, le téléphone avait achevé son déploiement sur l'ensemble du territoire. Et vous avez relu, dites-vous, un des classiques de la littérature électronique, de la littérature technologique, un des classiques de la Ve République. Il est signé Simon Nora et Alain Minc.
Exactement, c'est le rapport Nora Minc, c'est 77, où ils inventent. Minc dira même, je resterai probablement dans l'histoire pour ça, pour l'invention d'un mot, le mot télématique. Alors, le mot télématique a disparu, Minc est resté dans l'histoire, donc ça va, il s'en est sorti autrement. La télématique, ce qui est génial, c'est qu'en fait, on vit totalement dedans, c'est l'idée qu'on va utiliser des terminaux pour commander des trucs ou pour interagir. Sauf qu'en fait, il faut l'inventer. À l'époque, on a une informatique qui fonctionne avec des très gros silos, de type des grosses bibliothèques, et des consommateurs finaux qui n'ont jamais accès à cette information. Ouais. Ils achètent des annuaires, ils ont des trucs comme ça, mais on n'est pas du tout capable de rendre l'informatique grand public. Faut voir qu'on est avant le PC, on est avant Apple, on est à un moment où on ne sait pas du tout même qu'il existe un marché pour une informatique grand public. Et suite à ce rapport et à des réflexions justement du France Télécom de l'époque...
Justement, vous dites, on mène des études médiologiques et on se rend compte qu'on peut décrire les médias selon trois critères, dites-vous, la temporalité, le degré d'interactivité, le champ de diffusion. Et alors, on place le téléphone sous ces critères, on place la télévision sous ces critères, on place la presse sous ces critères, et on se rend compte qu'il n'existe pas de médium de diffusion universel qui soit à la fois instantané, comme le téléphone, et interactif, et en même temps universel, qui permettent de connecter tous avec tous.
Exactement, parce que la télé diffuse, il y a déjà donc le télétexte qui existe, donc c'est-à-dire la télé envoie du télétexte à tout le monde, on peut avoir la météo sur sa télé, mais on ne peut pas sélectionner une ville, on ne peut pas refaire remonter le message.
Et on ne peut pas répondre à la télévision.
Exactement, et ce qui est génial dans cette histoire, c'est qu'on se rend compte que le Minitel est inventé vraiment de façon hyper technocratique, sur une feuille, abscisse ordonnée, là il y a un blanc, ouais. Ces technologies n'existent pas. Et ce n'est pas une invention géniale, le Minitel, au sens où quelqu'un bricole et fabrique un Minitel, c'est juste... des hauts fonctionnaires et des technocrates voient qu'en fait, on pourrait, là, on pourrait inventer une technologie qui n'existe pas encore. Allons-y, inventons-la. Et donc, on va hybrider vaguement la télévision, donc la projection de signal et cette interaction qui existe déjà dans la presse via les petites annonces. C'est-à-dire, les gens peuvent interagir avec la presse. Ils peuvent écrire au courrier des lecteurs, mais ils vont le faire en direct.
Avec cette idée qui naît à Rennes, au CCET, le Centre commun d'études et de télévision et de télécommunication, avec cette idée géniale que pour brancher ce terminal, eh bien, on va le brancher sur le câble du téléphone.
Exactement, donc un câble totalement primitif qui est censé juste porter la voix, sauf qu'il a existé énormément de travaux dans la théorie de l'information qui a expliqué qu'en fait dans un câble, on peut faire passer beaucoup plus d'informations qu'il n'y paraît. In fine, on va voir qu'on va pouvoir faire passer Netflix dans un câble en cuivre, etc., faire passer beaucoup d'images, mais à l'époque, on va inventer un terminal qui va se brancher sur la vieille prise en T des téléphones. Et là, c'est la révolution parce que personne n'a jamais fait ça encore dans le monde.
Alors voilà, il fallait faire de la pédagogie à l'époque.
Le Minitel présente également d'autres intérêts. En effet, le service rendu par la machine est beaucoup plus complet que l'annuaire papier. Exemple, vous cherchez le téléphone d'un certain monsieur Joly à Rennes. Vous l'écrivez à la fin IE comme l'adjectif, alors qu'il s'orthographie Y. Malgré cette faute, si la phonétique du nom est respectée, l'appareil vous répondra et vous aurez votre numéro. Ceci dit, le Minitel n'a pas que des qualités. Par exemple, il interdit toute réception sur votre téléphone pendant la manipulation du clavier.
Eh oui, ça sonnait occupé, Aurélien Mélanger. D'abord un mot sur le design du Minitel et également sur ce nom, Minitel.
Alors, c'est l'un des meilleurs designers industriels de l'époque, c'est Roger Talon, qui est connu aussi pour le TGV. Donc, il y a toute une sorte de mythologie giscardienne qui débarque à 300 km/h sur nous. Et le Minitel... Alors, c'est un machin un peu marron qui paraît vieillot. Il faut voir qu'en fait, moi je dis pas marron, je dis plutôt chocolat, parce que les touches sont très belles, elles sont extrêmement bien designées. Et la légende dit que c'est un ordinateur, une intelligence artificielle de l'époque, qui aurait décidé, on lui aurait donné plein de noms, Omnitel, machin, Minitel, et Maxitel. Maxitel, non, les gens n'en voudront pas, c'est trop gros, donc finalement, Minitel. Et ce qui est génial, parce qu'on s'en est beaucoup moqué, par exemple, les claviers n'étaient pas AZERTY, c'était des claviers ABCD. Mm-hmm. C'est qu'en fait, c'était un objet qui devait diffuser à tout le monde, à des gens qui n'avaient jamais touché d'ordinateur. Donc ça devait être hyper simple. Ce qui est quelque chose qu'on retrouvera beaucoup, beaucoup plus tard avec notamment Apple, en fait, l'interface utilisateur.
Vrai.
Et déjà totalement pensé à la fin des années 70 autour du Minitel.
Avec l'idée qu'il va être gratuit, qu'il va être noir et blanc, qu'il va être prêté, qu'il va être robuste. J'aime beaucoup cet adjectif de robuste que vous utilisez, vous, dans votre roman, Aurélien Mélanger. Voilà, à l'heure de ces merveilles technologiques qui se périment à vitesse grand V, un mot qu'on avait oublié pour parler de technologie, robuste.
Alors, la légende dit même que les soudures étaient testées en fin de chaîne par quelqu'un qui tapait sur le côté avec un maillet. Et de fait, moi, j'ai plein de Minitel chez moi, et puis je savais pas quoi les faire, je les ai mis dans une ferme, dans un poulailler, ça sert d'endroit où mes enfants jouent comme ça à l'école. Et donc, ils sont totalement dans l'eau. Enfin, les conditions sont totalement déplorables. Et 40 ans après, ils s'allument encore. Technologie totalement increvable.
En mars 1979, on envoie un Français à un salon à Dallas et il annonce la fin du papier, la fin de l'ère du papier. Et de fait, ça va être une grosse économie pour les PTT puisqu'on va cesser de distribuer les annuaires.
Il faut imaginer que les annuaires, c'est donc des bouquins de, je sais pas, 3000 pages, mais fois 100 par département. Donc en fait, il y avait quelques endroits, je sais pas si nos auditeurs s'en rappellent peut-être, il y avait des cabines téléphoniques qui avaient tous les annuaires. Oui. C'était très très rare. Ça va permettre de sortir tout ça. Et donc, ces inventeurs du Minitel, je crois que c'est Gérard Théry qui va dire ça à Dallas, dit, voilà, on a fait ce qu'a fait Gutenberg, en fait. Gutenberg nous a sortis du Moyen-Âge, nous, on sort, voilà, on invente une nouvelle.
Vous vous êtes plongé, pour les besoins de votre fiction, dans cette expérimentation qui a eu lieu en 1980 à Vélizy-Villacoublay, c'est-à-dire qu'on distribue d'abord à l'échelle d'une ville, ces terminaux, puis ensuite à l'échelle de l'Alsace, c'est-à-dire à une échelle régionale, on va connecter en réalité des Français pour la première fois. C'est la naissance de la connexion. Et on va demander à des grandes entreprises, privées et publiques, de fabriquer du contenu.
Exactement. Alors au début, on est prudent. Donc c'est Vélizy, Villacoublay, Versailles. Donc on choisit des gens qui sont plutôt déjà un peu des ingénieurs, enfin qui ont censé avoir un bon niveau technique. Donc effectivement, on va demander aux gens. Et puis rapidement, on va se rendre compte que les gens parfois sont pas bons. On va notamment mettre en place des systèmes d'interaction où les gens peuvent interagir au sein d'une messagerie quand ça bloque un petit peu. Genre, j'arrive pas à comprendre ce qui se passe, ils peuvent interagir.
Voilà, alors juste avant ça, il y a quand même ce soir du 10 mai 80 qui va imprimer l'imaginaire collectif.
Dans tous les états-majors, un peu partout, dans tous les foyers, on attend ce résultat. Effectivement, vous l'aurez à l'heure précise.
10 secondes.
5, 4, 3... 2, 1. François Mitterrand est élu président de la République.
Qu'est-ce qui apparaît à l'écran, Aurélien Mélanger?
Alors, ce qu'on voit, le son cristallin est superbe, mais ce qu'on voit, c'est des lignes télématiques, des lignes d'affichage de Minitel, et Mitterrand apparaît comme une image de Minitel. Sauf qu'à l'époque, personne ne les a, mais c'est quasiment, ça va être ça, l'esthétique des années 80. Des écrans avec très peu de résolution qui sont capables quand même d'afficher des images.
C'est ça, l'esthétique qui va quand même envahir notre imaginaire collectif. Alors, la SNCF va proposer sur le Minitel les premières possibilités de consulter des horaires en ligne. Le PMU des résultats l'état de tiercé, Météo France des prévisions, on va même pouvoir consulter les impôts en ligne. Il va naître néanmoins la révolution. La révolution, c'est une messagerie.
Exactement. Alors la légende dit que c'est les dernières nouvelles d'Alsace qui font une messagerie, que c'est piraté par un jeune.
Un gamin de 11 ans.
Voilà, il y a toute une mythologie.
Qui aurait réussi à envoyer à d'autres utilisateurs.
Et lui aurait réussi à faire, c'était quelque chose, des gens parlaient à une sorte de webmaster et donc il a réussi à parler directement entre les gens. Et d'un coup, les dernières nouvelles d'Alsace ont découvert que les connexions explosaient. Les gens adoraient se parler. Et
entre eux.
Ce qui est fou, c'est que c'était des inconnus.
Alors, va naître la messagerie, et évidemment, avec la messagerie, ça va être l'âge d'or du Minitel. Je vais vous faire écouter Pierre Bélanger, qui a été un des grands pionniers de ce qu'on a appelé le Minitel rose. Mais d'abord, il faut bien préciser qu'il y a le principe de ces connexions surtaxées, de ces appels surtaxés, qu'on va regrouper sous le préfixe 3615.
Exactement. C'est l'idée de facturation est assez géniale. Il faut imaginer des technocrates avec des grandes lunettes comme dans les années 70 qui ont ces idées, avec ces costumes un petit peu ringards, et ils ont cette idée que les gens ont tous des factures téléphoniques et que le temps qu'ils passeront sur leur Minitel, ça sera débité de leur facture téléphonique. Ce qui a un énorme avantage, c'est que ça anonymise les connexions. Peu importe où ils vont, c'est pas des entreprises qui vont les facturer pour des machins qu'ils auraient fait, c'est juste France Télécom, entreprise totalement neutre, étatique, voilà, tout respectable, qui va ramasser de l'argent, mais qui va ramasser des sommes totalement dingues en fait, parce que c'est hyper cher, c'est comme Internet au début, c'est-à-dire qu'on paie 50, 100 francs l'heure de connexion, c'est des sommes totalement astronomiques.
Pierre Bélanger.
Le Minitel est un service public. Je veux dire, aujourd'hui, il y a en Ile-de-France 2 personnes sur 3 qui sont des solitaires. Grâce au Minitel, ils vont avoir la possibilité de se rencontrer. Le Minitel est complètement, je dirais, transsocial. Si on en voit uniquement, je dirais, l'aspect très limité, l'aspect un peu, je dirais, sordide que peut avoir parfois le Minitel, c'est 3% du Minitel.
3615 code Jane, 3615 code Ula, 3615 code Maud, c'est le succès est tel que le 18 juin 1985, le Minitel connaît sa première panne, effet de saturation.
Trop de connexions, en fait, tout simplement.
C'est ça. 12 millions d'heures passées sur le Minitel chaque mois, la moitié sur des messageries roses. Tout ça, je l'ai trouvé dans votre roman Aurélien Bélanger. Et ça rapporte plus de 500 millions de francs au PTT, qui reverse 300 millions de francs aux éditeurs de services télématiques. En fait, c'est une success story, mais c'est absolument incroyable l'argent que ça a généré.
C'est une success story qu'on en connaîtra après dans la nouvelle économie.
Exactement.
C'est des gens
c'est
qui vont devenir millionnaires très très vite.
Ouais,
et il faut juste fabriquer une sorte de pseudo-magazine, avoir un numéro de presse, parce qu'il faut quand même avoir un numéro de commission paritaire, blabla, pour avoir le truc. Et on peut gagner énormément d'argent. Mais qui nous est presque remis en main propre par des fonctionnaires de France Télécom. Donc c'est très bizarre comme économie.
Donc on a peut-être oublié, mais Claude Perdriel, qui était le cofondateur du Nouvel Ops, va créer 3615 Aline pour challenger le 3615 ULA. On l'a peut-être oublié, mais Pierre Bélanger, justement, qui était le fondateur de Skyrock, lui, il va créer le 3615 code Géraldine. Thierry Herrmann, ancien punk luciférien, dites-vous, dans votre roman, lance un 3615 P999.
Et il y a un 3615 Turlu, lancé par Libé aussi.
Et cette guerre commerciale, elle se mène à travers la publicité. C'est-à-dire que ça envahit d'affiches et de spots radio la France entière.
C'est là où moi j'ai vraiment rencontré le Minitel. Il y avait un Minitel chez moi, mais d'un coup, la ville est devenue... Il y a eu des publicités assez érotiques pour l'époque, de 3615 ULA, etc. Avec « Rejoins-moi », avec des poses plus ou moins lascives, un peu nudité suggérée. Et comme ça, bah, comme toujours, parce que la pornographie rapporte toujours d'argent et c'est elle qui est le vrai investisseur, le vrai banquier des médias pionniers. Et il y a eu vraiment un moment, effectivement, où il y a des affiches pour les 3615 absolument partout, partout.
Jusqu'au moment où ça plafonne, jusqu'au moment où la France s'ennuie, ou jusqu'au moment où la France a fait le tour, et où, racontez-vous, il faut débarrasser le Minitel de son péché originel pour en faire enfin un objet sérieux.
Bah, moi, j'avais vu ça parce que j'avais lu la totalité de Télématique Magazine à la BNF, donc j'avais pris une énorme pile de 80 magazines. Et donc, Télématique Magazine, le magazine du Minitel, et au début, donc, c'est un peu l'euphorie, énormément de publicité justement pour des messageries roses.
Ouais.
Et puis progressivement, on dit qu'en fait, non, c'est un outil de logistique, c'est un outil de gestion. Et on sent en fait que après ce moment un peu pionnier où on y va pour la pornographie, tout le monde essaie d'y aller un peu sérieusement. Et les entreprises se disent, oui, mais pourquoi est-ce que j'optimiserais pas ma chaîne logistique en utilisant le Minitel, etc. Ce qui va d'ailleurs rester, parce que l'un des usages les plus anciens du Minitel, c'est les kiosques à journaux qui l'ont gardé très longtemps.
Ouais.
Parce que leur système n'utilisait pas Internet jusqu'à genre il y a 10 ans, parce que le Minitel s'est vraiment éteint il y a 10 ou 12 ans, le réseau, enfin l'armature centrale de réseau Transpac s'est éteint il y a 12 ans. Et il y a encore des gens dans la logistique pure qui utilisaient les Minitel parce que c'était hyper robuste pour faire des inventaires, des choses comme ça.
Et alors dans ce monde idéal d'ingénieurs, il y a ça aussi.
Cela peut nous arriver à tous un jour. Je sais ce que vous ressentez. Mon nom est Célène. Je suis astropsychologue. Je vous conseille par Minitel. Chaque jour, sur 3615 Célène, je vous parle de votre avenir. 3615 Célène, l'astrologie sur Minitel.
Explosion du jeu en ligne, 3615 code Ludo, 3615 code Funitel, explosion de l'astrologie en ligne et de la voyance, Aurélien Bélanger.
À travers le Minitel, il y a quand même cette idée que la France vit comme une utopie moderniste, anticipe, voilà, c'est Internet avec 10 ans d'avance, etc. On est entré dans le futur. Et bizarrement, c'est aussi les années un peu de la postmodernité, on sait plus trop où on est. On discute, on fait de la voyance, on a besoin de coaching personnel, on a besoin de plein de choses. Et le Minitel, très vite, va ressembler aux Français.
Et ce qui, pour vous, fait un terreau de fiction formidable, c'est que c'est quand même la rencontre entre un monde éminemment technocratique tel que vous nous l'avez décrit et un monde plein de voyous assez louches en réalité.
Il y a plein de voies assez lourdes parce que c'est possible de très rapidement de glisser par exemple du monde un peu des sex shops au monde du Minitel. On l'a vu notamment avec mon héros. Mais il y a aussi cette chose que les Français vont découvrir au-delà même des messageries roses, qu'il y a plein de gens qui vont découvrir. Et moi j'ai vu des gens très actifs sur Facebook il y a 15 ans m'ont expliqué qu'ils étaient déjà très actifs sur Minitel il y a 20 ans en fait. C'est-à-dire cette idée d'écrire pour une communauté, de faire plein de posts, de passer la nuit à débattre de sujets quelconques. En fait, ça naît sur le Minitel aussi. Et c'est assez fascinant.
Alors écoutez ce que Alain Minc entrevoyait déjà comme peur et comme critique.
Quant au dernier point, qui est celui des fichiers, je crois que c'est un faux problème. En réalité, le problème est de savoir si une société est démocratique ou non. Et nous avons de manière un peu polémique, Simon Nora et moi, écrit que la Gestapo a malheureusement fait parfaitement son travail sans fichiers électroniques et que la Suède, qui a le plus de fichiers électroniques au monde, n'est pas que l'on sache une dictature.
Alain Minc, quel est l'avenir de la télématique ?
Il est immense et il est indescriptible, c'est-à-dire que nous assistons à une naissance. Nous savons que c'est certainement le phénomène technique le plus important des décennies qui viennent, mais il est tellement important qu'on peut même en définir le terme ultime.
Alors nous sommes en 1978 et Alain Minc pense déjà à la question au fond des data, à la question de ce que cette espèce de Big Brother numérique auquel on va tous se connecter volontairement et avec engouement et appétit va absorber de renseignements sur nous.
Oui, avec cette chose particulière pour le Minitel, que le Minitel n'avait pas de mémoire. Oui. Donc c'était des connexions instantanées, mais il n'y avait pas de disque dur qui stockait, comme Facebook stocke en stylo, toutes les datas. Donc il y avait aussi un côté un peu coup dans l'eau. C'est pas pour de faux, mais c'était pas exploitable. En
mais
fait,
au fond, c'est ça qui est passionnant dans ce que vous racontez dans cette aventure du Minitel, Aurélien Bélanger, dans votre roman La théorie de l'information, c'est que c'est un terminal totalement passif. Hors connexion, il n'est capable de rien.
Exactement. Alors moi, j'utilisais beaucoup le Minitel chez moi et donc je l'allumais, j'appuyais sur connexion fin, la touche, ça faisait touc touc et puis après je tapais des lettres et il y avait absolument que ça à faire. Il y avait pas de contenu si on se connectait pas. Et le Minitel, c'est ce qui lui a manqué, c'est qu'il a raté la couleur et puis c'était pas.
Il a raté les courbes.
Il a raté les courbes effectivement, ce qui est quand même un vrai problème, surtout si on veut faire de la pornographie. Et surtout, le terminal évoluait pas. Donc en face, les PC devenaient de plus en plus puissants, donc on pouvait se raccorder Internet. Et le Minitel, on avait un Minitel chez nous, on le gardait 15 ans. Donc c'était pas évident de révolutionner totalement les usages avec un terminal totalement passif. Ouais.
Merci beaucoup Aurélien Bélanger, la théorie de l'information qu'on peut lire et relire en folio. Et merci d'avoir clos cette semaine d'archéologie des médias, la naissance de la connexion avec vous ce matin. Merci.
Merci beaucoup.